Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver, Alexandre Aguerre et moi-même, en cette nouvelle année pour un entretien diffusé simultanément sur Radio La Pourdie Ratia en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Au cours de cet entretien, nous allons aborder les grands thèmes de cette année, également des sujets de société qui nous préoccupent en ce moment, et enfin les réalités diocésaines auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'évêque. Alors l'année est lancée, vous l'avez fait au cours des vœux que vous avez adressés au clergé de notre diocèse le 7 janvier dernier à Orthès. Lors de ces vœux, vous êtes d'abord revenu sur les événements importants de l'année 2012. Sur quels événements avez-vous spécialement insisté ?
Alors j'ai comme toujours essayé d'insister sur les événements qui concernent la vie du monde et la vie de l'Église universelle, et puis aussi celle de notre pays, la France, et enfin celle du diocèse qui était riche en événements au cours de l'année 2012. Pour ce qui est des événements qui ont marqué le monde, je crois qu'il est important de signaler quand même cette crise financière avec ses répercussions économiques et sociales très graves, en particulier en Europe, hein, et on le sait, qui a fragilisé un certain nombre d'États européens, comme la Grèce, comme l'Espagne, l'Italie, la France qui, pour l'instant, tire encore ses épingles du jeu, mais jusque-à quand, comme dit le psalmiste. Et j'ai insisté aussi pour ce qui concerne la situation de notre pays, ben, sur les changements qui ont été opérés à travers les élections présidentielles et les élections législatives en 2012, qui ont donné à notre pays un nouveau gouvernement et un nouveau parlement. Et j'ai signalé en effet ce changement de société qui est un peu en marche dans le programme de ce gouvernement, puisque Monsieur le Premier ministre a parlé d'un nouveau modèle social français. Et parmi les éléments de ce nouveau modèle, il y a évidemment la loi Taubira, qui était présentée non pas comme un simple toilettage du Code civil, mais comme, selon les termes même de Madame le garde des Sceaux, un changement de société, voire de civilisation. Et puis, pour ce qui est de la vie de l'Église, j'ai insisté sur la rencontre mondiale des familles à Milan, à laquelle j'ai participé avec le vicaire général et les responsables de la pastorale familiale, et aussi évidemment sur l'ouverture de l'année de la foi pour célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile et le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique, année de la foi que nous avons nous aussi lancée de manière officielle dans le diocèse à Bayonne comme à Pau. Et j'ai insisté aussi sur le synode de la nouvelle évangélisation, sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne qui s'est tenue à Rome au mois d'octobre autour du Saint-Père.
Donc pas mal d'événements effectivement en 2012. Alors pour 2013, devant la centaine de prêtres qui étaient présents pour ces vœux, qu'est-ce que vous avez souhaité pour cette année ?
Alors je suis parti sur d'un événement aussi que je n'ai pas signalé à l'instant, mais qui est la visite ad limina des évêques de France dans le dernier trimestre de l'année 2012, qui était très important pour moi et pour nous tous, évêques.
Donc, visite à Rome, pour ceux qui me
visite à Rome, donc au tombeau de Pierre et de Paul, donc c'est un pèlerinage, mais qui donne l'occasion de rendre un peu des comptes de notre gestion épiscopale pendant une certaine période, donc au pape et à ses collaborateurs. Et tout a commencé pour nous par une messe, évidemment, à Saint-Pierre de Rome, dans la crypte. Nous étions 33 évêques hein, de la délégation du Grand Ouest de la France, présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque métropolitain de Bordeaux, qui donc donnait l'homélie. Et nous étions à quelques mètres du lieu de la confession de Pierre. Et il nous a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, sur laquelle je suis revenu à l'occasion des vœux du clergé, pour donner quelques orientations aussi pour notre vie ecclésiale pour l'année 2013. Il nous a dit... l'évangélisation n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication, elle est un combat spirituel, un temps d'épreuve où l'on peut prendre des coups. Et il a ajouté, en parlant du martyr de Pierre, qu'il y avait plusieurs formes de martyr. Il y a le martyr du sang, il y a aussi le martyr médiatique, le martyr devant l'opinion publique. Et il a ajouté, cette phrase qui m'a aussi beaucoup marqué, le martyr du service de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. Et j'ai voulu partir de cette phrase pour dire combien il me semblait que nous avions été dans les événements de cette fin d'année 2012 et dans la perspective aussi de l'année 2013, en France en particulier, nous sommes ramenés à l'essentiel de la mission prophétique de l'Église, sur laquelle le pape Benoît XVI, comme la plupart de nos interlocuteurs à Rome, ont beaucoup insisté. Et j'ai pensé que la phrase de cette parole du cardinal Ricard était très prophétique de ces événements que nous avons vécus déjà depuis quelques mois et qui m'ont touché particulièrement dans mon ministère épiscopal. Hein, parfois cette manière de critiquer les opinions dominantes, comme nous y inviter, comme une urgence pour la mission de l'évêque, le pape Benoît XVI, qui peut être incomprise, qui nous confronte aussi à l'incompréhension sans doute, mais aussi parfois au rejet, et qui souligne un nombre de tensions. Voilà. Et j'ai donc beaucoup insisté sur cette mission prophétique auprès de mon clergé, en disant que cette mission prophétique, donc, c'est pas seulement annoncer l'Évangile pour ceux qui regardent le cœur de notre mission et de notre message, mais aussi pour éclairer les débats de société qui peuvent agiter nos contemporains.
Donc le mot de communion, un mot important pour l'année 2013. Alors ça, c'était vos vœux au clergé. C'est vrai que traditionnellement, vous proclamez aussi des vœux aux laïcs. Il n'y en a pas eu cette année ?
Alors cette année, on n'a pas pu caser dans le calendrier quelques rencontres avec les laïcs pour les vœux comme les deux années passées. Ceci dit, j'avais rencontré les laïcs largement au retour de ma visite ad limina, et j'avais donc pu avoir un échange, puisque au fond ces rencontres sont surtout l'occasion d'un message et éventuellement d'un échange avec les participants. Donc en l'occurrence, bon, on n'a pas trouvé cette année de date pour les vœux des laïcs, mais nous aurons aussi la journée de la vie consacrée qui permettra aussi de rejoindre au moins le monde consacré, qui est assez important dans notre diocèse.
Monseigneur Hayé, nous sommes dans l'année de la foi depuis le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place dans notre diocèse concrètement pour vivre cette année de la foi ?
Alors, c'est sûr qu'il faut se rappeler d'abord les trois objectifs que Benoît XVI a assignés à l'année de la foi, que j'ai d'ailleurs rappelé très spécialement à l'occasion de la rencontre avec le clergé au début de l'année. Premier objectif, approfondir la foi comme relation personnelle avec le Christ. Et je crois que ça fait partie vraiment du cœur du message que j'essaie moi-même de délivrer dans le diocèse, en particulier à travers les visites pastorales. Mais aussi, deuxième objectif, se réapproprier ou redécouvrir les contenus de la foi. Et à travers un travail peut-être plus qui mobilise davantage l'intelligence, un travail sur le catéchisme de l'Église catholique. Et redécouvrir la foi dans toute sa cohérence et par conséquent aussi dans toutes ses implications dans la vie des hommes, aussi bien éthique qu'anthropologique, et nous sommes certainement au cœur du débat actuellement, et que social et missionnaire. Et puis le troisième objectif, c'est la crédibilité de la foi, c'est-à-dire comment, dans notre manière de vivre, nous témoignons d'une foi vivante, d'abord à travers notre charité fraternelle, et je reviens donc à cette communion qui est toujours le grand défi que nous avons à relever dans notre Église, où nous sommes traversés, c'est vrai, par des tensions redoutables, et qu'il est si difficile de se rencontrer, de se parler, de se comprendre, donc qui suppose de grandir aussi dans la notion du dialogue. C'est aussi une manière de célébrer le 50e anniversaire du Concile, que de remettre au centre de notre vie ecclésiale cette question de dialogue, qui consiste non pas à vouloir convertir les autres, mais à se parler pour entrer dans une compréhension mutuelle, en étant bien clair dans son identité, et donc sans remettre en cause son identité, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Et toujours dans une commune recherche de la vérité, qui pour nous est le Christ. Et puis, autre aspect qui donne crédibilité à notre foi, c'est le service des plus pauvres et des plus démunis, et c'est là certainement que notre démarche diaconat 2013, qui est bien engagée maintenant et qui va aboutir à son épilogue le 9, 10 et 11 mai prochain à Lourdes, eh bien apporte, donne un peu de chair précisément à cette crédibilité de la foi.
Alors justement, cette démarche diaconia, vous, comment vous la vivez? Et pouvez-vous nous dire, à travers justement les visites pastorales que vous effectuez, quel impact a cette démarche dans les paroisses et communautés du diocèse?
Alors comment je la vis? D'abord en essayant moi-même de me convertir, hein, par rapport aux plus démunis, aux plus marginaux, que je peux avoir l'occasion souvent de rencontrer, parfois même d'aider. Hein. Mais je la vis aussi dans mon ministère d'évêque, à travers mon implication dans cette mission diaconale, donc de service du frère, et en particulier du frère le plus éloigné ou le plus fragile, qui caractérise la mission de l'Église comme l'évangélisation et comme la liturgie, et au même titre, et dont l'évêque doit être un protagoniste dans le diocèse. Donc, dans l'encouragement que je peux apporter, à travers précisément nos rencontres, nos visites pastorales, à ce que les communautés, eh bien, s'approprient cette dimension diaconale, pas seulement par organisme caritatif interposé.
Alors pour ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être se dire c'est du blabla, c'est des très belles formules, mais finalement, est-ce qu'on est prêt dans nos communautés chrétiennes à accueillir le SDF qui fait la manche devant à l'entrée de l'église ?
Alors c'est précisément ce sur quoi j'essaie d'insister. Je me dis le temps de la réflexion et du partage sur les fragilités et sur les merveilles qui étaient l'occasion de la démarche l'an dernier est une chose. Maintenant, il faut que concrètement, nos communautés choisissent une démarche qui permette de vivre cette fraternité dont on parle et d'intégrer dans la communauté des personnes qui sont marquées par la fragilité.
Monseigneur Hayet, vous êtes avec nous pour le lancement de cette année 2013, une année marquée par l'année de la foi, par la démarche Diaconia qui se termine bientôt au mois de mai. Une année qui voit venir aussi des sujets de société importants sur lesquels vous n'hésitez pas à vous engager en tant qu'évêque. Tout d'abord, vous avez organisé le 1er décembre dernier un colloque international qui a eu lieu à Biarritz et qui a rassemblé 800 personnes, intitulé « Colloque pour la vie » avec de nombreux intervenants prestigieux où il a été question de vie depuis sa conception jusqu'à sa fin. Alors il y a eu de nombreux échanges, essentiellement il faut le dire, sur l'avortement, sur la manière dont dans les autres pays la question est traitée, les actions qui sont menées pour lutter contre l'avortement. Quel bilan tirez-vous de ce colloque ? Est-ce qu'on peut dire que ça a été un succès ?
Alors, je crois que c'était un succès dans la mesure où les participants ont dépassé nos espérances dans une salle qui ne pouvait contenir que 470 personnes. Vous allez me dire comment est-ce qu'on a pu avoir 800 personnes inscrites ? Bon, il faut dire qu'il y avait deux jours, donc il y a des gens qui sont venus le vendredi, d'autres qui sont venus le samedi. Et puis on a pu ajouter à 470 places dans la salle proprement dite du colloque un espace de 120 personnes dans le hall avec une diffusion par télévision qui a permis à d'autres de participer à cet événement. Donc déjà par le nombre et la mobilisation, deux tiers des participants venant de notre diocèse, donc pour moi c'est quand même un succès, parce que ça veut dire que ça a touché d'abord notre diocèse, même si, étant donné le retentissement, j'allais dire international, et des intervenants et des questions qui étaient abordées, nos voisins du Pays Basque du Sud étaient bien représentés, dont les trois diocèses limitrophes, je pense à, enfin pas tout à fait limitrophes, mais Bilbao, Saint-Sébastien et Pamplune, et puis aussi d'autres qui venaient d'autres régions de France. Je crois que ça a été un succès parce que il m'a semblé que le but recherché était, selon les termes du pape Jean-Paul II dans son encyclique L'Évangile de la vie, il faut une mobilisation des consciences, dit-il, pour une grande stratégie au service d'une culture nouvelle, d'une nouvelle culture de la vie. J'aime bien ce terme mobilisation, car il s'agit bien de s'engager concrètement au service de la vie partout où elle est menacée. Et nous avons choisi comme angle d'attaque, c'est vrai, la vie principalement dans son commencement. Mais toutes les étapes de la vie, c'est transposable à toutes les étapes de la vie. Et je vois en effet qu'il y a un climat de paix, de joie et d'espérance qui a caractérisé ces deux journées de colloque et qui certainement a accompagné les personnes à leur retour chez eux. Et j'ai vu aussi qu'un certain nombre de personnes ont désiré s'engager concrètement davantage. Je vous donne qu'un seul exemple, ce médecin radiologue qui veut me voir deux jours après et me dit, eh bien, il y a un déclic qui s'est passé grâce au témoignage qui a été donné en particulier par les mouvements américains et je propose, moi, de donner un tiers de mon temps gratuitement pour le service de la vie et mettre gracieusement au service des femmes enceintes en difficulté, eh bien, mon savoir-faire, leur proposant des échographies pour qu'elles puissent se rendre compte de la beauté de la vie qui est en elles. Voyez, rien que ça me semble être un effet tout à fait positif et concret de ce colloque. La mutualisation aussi des moyens et des initiatives pour servir la vie à travers la diversité des intervenants, tous capables d'un argumentaire fondé en raison, scientifique, anthropologique, éthique, juridique, théologique même, mais surtout étant témoins par leur engagement concret au service des plus fragiles. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué. Ce ne sont pas seulement des paroles et des discours, mais des gens qui mouillent leur chemise, qui retroussent leurs manches pour être au service sans doute de la vie en son commencement, pour aider des femmes à ne pas avorter, mais aussi accompagner des femmes qui ont avorté et qui connaissent des grandes souffrances et des grands traumatismes, en les accompagnant, en les écoutant, en mettant à leur service des moyens aussi de guérison intérieure. Et puis, tous témoins de la foi. Et c'est important parce qu'on se dit que derrière ces engagements concrets, derrière ces argumentaires fondés en raison, eh bien, il y a aussi une foi vive et une rencontre avec le Christ et une vie très établie dans la prière qui est la source de leur engagement.
Alors c'est vrai que c'est quand même un sujet sensible, l'avortement, même en milieu chrétien. Et puis en France, c'est un acquis, en fait, depuis la loi de 1975. Est-ce que, selon vous, le sujet a été traité avec une attention aux personnes? Et puis est-ce que vous pensez que les méthodes, souvent assez musclées, des Américains, par exemple, sont transposables en France?
Alors d'abord, vous remarquerez que, et c'est facilement constatable, puisque nous allons maintenant mettre à la disposition de ceux qui veulent un coffret de 4 DVD qui permettent d'avoir accès à toutes les interventions de manière audiovisuelle, comme si on y était, vous remarquerez qu'on n'a jamais été dans une attitude de dénonciation des personnes et de condamnation d'aucune sorte. Le propos est toujours positif et est toujours orienté vers la personne la plus fragile, à commencer donc par l'enfant, hein, qui peut être menacé de mort, disons-le, même si les lois sont passées et même si précisément la chose paraît entendue et demeure peut-être aussi un sujet tabou. Alors pourquoi reparler de l'avortement alors que la loi est passée en France comme dans d'autres pays? Ça n'est pas du tout pour déterrer l'âge de guerre. C'est pour, d'une nouvelle manière, ne pas s'accommoder d'une banalisation d'un fait qui n'est pas un fait banal et ordinaire, et peut-être réveiller quand même la conscience, non pas pour se culpabiliser, mais pour engager des démarches pour une nouvelle culture de la vie. Vous voyez, quand le pape Jean-Paul II, en 1995, écrit son encyclique Evangelium Vitae, il sait qu'en France, la loi est passée en 1975, et aux États-Unis un petit peu avant, et dans la plupart des pays européens. Il sait que les citoyens sont dans des pays où on a légiféré sur la possibilité d'interrompre une grossesse. Et pourtant, il rappelle que la loi civile doit s'accorder à la loi morale et à la loi divine, et il dit avec beaucoup de solennité et de gravité que l'avortement demeure un meurtre. Quand on a dit ça, on sait aussi qu'il y a beaucoup de souffrance autour de cela, et je pense que les divers intervenants, même dans leurs opérations musclées pour essayer de sauver des vies humaines, car c'est bien de cela qu'il s'agit, eh bien, d'abord n'attentent jamais à la conscience des gens, n'attentent jamais à la liberté des personnes, et n'attentent jamais à l'intégrité physique des personnes engagées. Et c'est aussi être dans la compassion vis-à-vis de toutes ces souffrances. Alors est-ce que c'est transposable chez nous? Non, sans doute. Mais ce qui est transposable, c'est l'amour de la vie, depuis son commencement jusqu'à sa mort naturelle. C'est le zèle pour la défendre, pour la protéger et pour la sauver quand elle est menacée. Et c'est l'audace des moyens que nous pouvons nous aussi inventer en étant toujours respectueux des personnes et jamais ni dans la condamnation ni dans la violence pour sauver des vies humaines.
Est-ce qu'il y aura un autre colloque prévu dans les années à venir?
Alors devant le succès, c'est vrai qu'avec les évêques du Pays Basque du Sud, nous nous sommes concertés et eux-mêmes m'ont demandé s'il était possible d'organiser ce colloque à tour de rôle dans nos diocèses qui sont limitrophes. Donc je me suis dit, au fond, c'est bien aussi de partager ce label du colloque international pour la vie, sachant que c'est quand même un gros investissement pour nous, 70 bénévoles qui ont quand même été sur la brèche pendant pas mal de semaines en amont de cet événement.
Monseigneur Ayé, parlons maintenant de la loi de Madame Taubira, donc qui veut instituer le mariage pour les couples homosexuels. Projet de loi qui est en plein débat donc à l'Assemblée nationale actuellement. Il y a eu le week-end dernier, c'est-à-dire le 26 janvier, la manifestation de ceux qui sont en faveur du mariage pour les couples homosexuels. Le 13 janvier dernier, il y a eu la manif pour tous, c'est-à-dire ceux qui sont contre cette loi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mobilisation? Que ce soit pour ou contre.
Alors moi, je suis frappé quand même par cette mobilisation contre le projet de loi, évidemment, qui a été animée, on peut dire, depuis quelques semaines et quelques mois, par un collectif d'associations, collectif qui se veut apolitique et non confessionnel, et qui s'appelle la Manif pour tous, et qui a organisé en particulier ce grand événement du 13 janvier, où, malgré les chiffres vraiment mensonger de la police, 1 300 000 personnes se sont rendues à Paris pour manifester de manière paisible et joyeuse, jamais encore une fois dans la dénonciation, contre ce projet de loi. Et je crois qu'il était tout à fait clair pour tous, et pour les organisateurs et pour les participants, à travers d'ailleurs les slogans qui ont été scandés, à travers les pancartes, qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation contre des personnes. Le sujet n'était pas l'homosexualité et n'était pas les personnes homosexuelles. Le sujet, c'était un projet de loi, c'est-à-dire inscrire dans la loi et dans le code civil la possibilité pour des personnes de même sexe de se marier comme des personnes de sexe différent et ainsi d'accéder à la filiation par l'adoption et en filigrane, même si pour l'instant on s'en défend, par la procréation médicalement assistée, voire la gestation pour autrui, qui serait dans la logique d'un projet de loi qui repose essentiellement, selon ses instigateurs, sur le principe d'égalité et de non-discrimination. Donc je crois que c'est très important de souligner ça, parce que on a tendance, dans les pro-mariage pour tous, qui ont aussi en beaucoup moins nombre, beaucoup moins grand nombre, manifesté à Paris le 27 janvier, à l'appel de tous les partis politiques de gauche et de toutes les organisations syndicales de gauche autour du lobby LGBT, qui ont été dans la diabolisation de leurs opposants. On s'est même demandé, quand on regarde les images et quand on entend les slogans, s'ils étaient là pour défendre le projet de loi mariage pour tous ou s'ils étaient là pour diaboliser les opposants et parfois même de manière insultante, avec une vulgarité qui n'aurait échappé à personne et parfois directement dirigée contre l'Église catholique, qui a été une voix parmi les autres, qui sans doute a ouvert le débat dans l'opinion publique qui demeure institutionnellement confisquée, mais qui a été rejointe, comme on le sait, par toutes les grandes religions en France, par beaucoup d'autres associations d'adoption familiale et autres qui n'ont rien à voir ni avec la politique, ni avec la religion.
Une majorité politique ne peut, sans dommage pour le bon fonctionnement démocratique, ignorer les réactions que suscite chez tant de nos compatriotes le projet d'une telle réforme de civilisation. C'est la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France du 16 janvier. Bien sûr, vous y souscrivez. Le président Hollande a reçu les organisateurs de la manif pour tous. Le projet de loi va passer.
Il avait d'ailleurs annoncé, en recevant une demi-heure et après 15 jours presque de l'événement, le collectif, il avait déjà annoncé que de toute façon sa détermination était telle que rien ne changerait. Donc c'est pas ce qu'on appelle absolument le dialogue, et je pense en effet qu'il y a un certain mépris du gouvernement actuel par rapport à 1 300 000 personnes qui n'ont pas été mobilisées sur des intérêts particuliers à défendre, mais sur un projet de civilisation, qui ont payé de leur personne et de leur porte-monnaie pour participer à une telle mobilisation. Et je trouve que quand une manifestation atteint cette ampleur dans un pays où on n'a aucune comparaison, dans aucun mouvement social, moi j'appelle ça du mépris de l'opinion publique, même si des sondages continuent de caracoler en disant qu'il y a une majorité de personnes pour le mariage homosexuel, mais tous les sondages d'opinion aussi montrent qu'il y a une majorité de personnes qui sont contre l'adoption des enfants. Comme les deux sont indissociables, eh bien, je pense qu'il faut en prendre acte. Et j'espère beaucoup que les parlementaires sauront laisser parler leur conscience pour un sujet de société comme celui-là. Liberté de vote des parlementaires qui est garantie par la Constitution et qu'elle ne sera pas muselée par une discipline de vote qui nous ferait revenir aux heures les plus noires des démocraties populaires.
Affaire à suivre, donc, Monseigneur Ayé, nous nous retrouvons dans quelques instants. Je signale juste pour ceux qui nous écoutent que cet enregistrement, que cette interview est réalisée le 31 janvier 2013.
Monseigneur Ayé, nous poursuivons cet entretien diffusé simultanément sur Radio La Pourdie Iratia et sur Radio Présence. Nous avons évoqué en début d'émission les orientations pour cette année 2013, également les sujets de société qui nous touchent, notamment ce projet de loi sur le mariage pour tous qui est débattu en ce moment. Un autre projet du gouvernement qui peut nous toucher concrètement en tant que chrétien, c'est ce qui touche à la vie scolaire, notamment le changement de rythme qui devrait être effectif à partir de la rentrée prochaine, donc avec des cours le mercredi matin, au primaire également, et donc à la place du catéchisme qui a habituellement lieu le mercredi matin. Est-ce que, à cause de cela, vous êtes pour cette réforme des rythmes scolaires ?
Alors c'est sûr qu'on ne va pas se déterminer par rapport à cette réforme seulement pour la question du catéchisme, même si c'est ça qui nous intéresse en premier. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le rythme de la vie scolaire pour les enfants. Il faut toujours se poser, quand il y a une réforme des rythmes scolaires, la question de savoir si c'est pour le bien des enfants ou si c'est pour l'intérêt des adultes. Alors je ne peux pas répondre aussi sans nuance à une telle question. Je sais qu'on veut ramener le rythme scolaire à la semaine des 4 jours, donc ce qui veut dire que le mercredi matin sera pris pour la classe, pour l'enseignement et non plus pour les temps extrascolaires, les activités extrascolaires, en particulier dans le cadre de la loi Jules Ferry, pour l'instruction religieuse, qui était donc prévue en effet par la Constitution. Est-ce que ce sera bon pour les enfants d'avoir 4 jours sans quasiment d'interruption pour permettre un week-end plus grand et peut-être mieux arranger les familles et peut-être même mieux arranger les adultes ? Je n'en sais rien. Là, il faudrait demander à des pédopsychiatres et à des spécialistes de pédagogie scolaire de répondre vraiment à la question. Pour nous, c'est vrai que ça risque d'être quand même un handicap, car le mercredi matin, encore dans notre diocèse, est traditionnellement consacré à la catéchèse et dans la plupart de nos paroisses. Et c'est vrai que le mercredi matin, les enfants sont peut-être un peu plus disponibles, ils n'ont pas eu classe juste avant, ils sont donc plus dispos pour une activité qui demande un minimum d'attention et de concentration, même si on fait en sorte que la catéchèse ne se réduise pas à un enseignement scolaire, par définition. Ce qui corse un petit peu les choses, c'est que je crois que un projet de loi qui d'ailleurs est très controversé, y compris par les syndicats de parents ou d'enseignants de l'enseignement public, avec des grèves et des manifestations comme on l'a vu à Paris il y a quelques jours, sera l'initiative des communes. Ça veut dire que vous pourrez avoir dans une commune l'école le mercredi matin, dans d'autres, non. Alors, comme nous avons des paroisses qui regroupent plusieurs communes, ça risque de poser de nouveaux problèmes de rassemblement des enfants pour la catéchèse et de disséminer, de disperser, disons, ce petit groupe d'enfants qui peut aussi diminuer dans certaines paroisses, ici ou là, et de ne plus avoir la chance de pouvoir les rassembler et leur donner aussi le sentiment d'appartenir à une même communauté chrétienne.
Alors, il existe aussi du catéchisme, finalement, le dimanche, avec les parents. Ça a lieu dans
Alors, c'est
travail.
Vrai qu'il y a, dans le souci de relier la catéchèse à la vie de la communauté chrétienne, et en particulier à la liturgie du dimanche, à l'assemblée dominicale, qui est le lieu d'expression par excellence de la communauté chrétienne, certaines paroisses avaient déjà choisi de faire le catéchisme le dimanche matin, avant la messe. Je reviens d'une paroisse où j'étais en visite pastorale, et les enfants de la profession de foi et de la confirmation se rassemblent, sans doute pas tous les dimanches, mais une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, le dimanche matin, pour un temps de rencontre et de catéchèse, qui précède immédiatement la messe, et qui permet d'ailleurs aux enfants de participer, pour le coup, à la messe paroissiale, même avec leur famille. Ce qui permet d'ailleurs aussi de dégager aussi des catéchistes plus jeunes, parfois, et d'avoir des pères, des papas et des mamans, ce qui n'est pas mal non plus pour la transmission de la foi, d'une manière encore plus familiale. Ceci dit, d'autres paroisses ont choisi et choisiront de le faire le mercredi soir, ou le mardi soir, ou le vendredi soir, ou le samedi. Mais vous voyez, ça va disperser un peu l'offre et l'organisation de la catéchèse dans le diocèse.
Alors, on reste dans l'enseignement. Il va aussi y avoir une réforme des statuts de l'enseignement catholique.
Alors ça, c'est très important aussi. Les évêques ont demandé au secrétaire général de l'enseignement catholique de refondre complètement le statut de l'enseignement catholique pour garantir davantage son caractère propre, son projet éducatif catholique, et resituer la mission de nos écoles catholiques, de nos établissements catholiques d'enseignement, dans la mission de l'Église et dans la mission éducative de l'Église. Et donc cette refonte, qui n'est pas seulement un toilettage, donne lieu à une nouvelle rédaction dans laquelle il y a deux évêques qui participent comme des directeurs diocésains, comme des membres du secrétaire général, comme des différents partenaires de l'enseignement catholique, avec un va-et-vient avec la conférence évêque de France. Nous avons déjà eu deux échanges avec le secrétaire général à deux assemblées plénières. Aujourd'hui, le secrétaire général de son catholique va à la rencontre des évêques dans les provinces, je suppose qu'il va à la rencontre des directeurs diocésains aussi et des autres partenaires en ce moment catholique, pour affiner le texte. Et nous avons eu, nous, dans le diocèse, la chance, au début de l'année, dans notre rencontre traditionnelle de début d'année avec l'évêque, des chefs d'établissement de l'enseignement catholique diocésain, nous avons eu la présence de Claude Berruet, qui est secrétaire général adjoint et qui nous a fait de manière extrêmement brillante et exhaustive un très bel état des lieux de ce nouveau statut de l'enseignement catholique, avec beaucoup de pédagogie. Et je pense que ça a aidé aussi les chefs d'établissement à intégrer ce nouveau statut, qui ne sera sans doute promulgué par les évêques qu'en novembre 2013, après une prochaine séance de travail en mars prochain.
Le Sénat a adopté le 4 décembre dernier une proposition de loi visant à mettre en place un régime d'autorisation sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. C'est inquiétant ?
Oui, bien sûr, c'est très inquiétant. Et c'est là où on se rend compte qu'un train peut en gâcher un autre, que pendant que nous sommes très préoccupés par la question du mariage pour tous, il y a d'autres projets de loi qui sont plus que dans les cartons et qui vont être discutés à l'Assemblée et au Parlement d'une manière large. Non seulement l'autorisation d'expérimentation sur les embryons, qui modifie substantiellement la loi de bioéthique de 2010, qui avait donné lieu d'ailleurs à des états généraux et des débats citoyens, et qui fixait d'ailleurs dans la loi elle-même qu'on ne pouvait procéder à une modification de cette loi sans procéder à nouveau à des états généraux de la bioéthique. Donc là, on se dit il y a vraiment une manière extrêmement autoritaire de faire passer les choses, sous prétexte que le Parlement a été largement élu par la société, et qui est quand même très inquiétant. Là où on était dans une dérogation, mais dans une interdiction et une dérogation qui déjà est insupportable, là on est dans une autorisation large pour raison médicale de l'expérimentation sur les embryons. Mais il faut aussi ajouter à cela la loi sur la fin de vie, qui modifierait encore substantiellement la loi Leonetti, qui n'est pas encore mise en œuvre largement en France.
Alors cette loi Leonetti, certains considèrent qu'elle n'est pas suffisante, notamment au regard de la souffrance de certaines personnes en fin de vie. Vous pensez qu'avec cette loi Leonetti, on peut accompagner les personnes en fin de vie d'une manière dans la dignité ?
Mais tout à fait. Je pense que la loi Leonetti a bien distingué entre l'acharnement thérapeutique et l'opposition à l'euthanasie, et a mis en place un programme de soins palliatifs qui mérite sans doute d'être aménagé, d'être affiné, mais qui n'est toujours pas mis en œuvre. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas mis les moyens que l'on devait mettre en œuvre en termes financiers, mais en termes de personnel, pour que ces soins palliatifs puissent être une réalité proposée sans discrimination à tous les patients en fin de vie.
Le dimanche 10 février, c'est le dimanche de la santé. Le 11 février, c'est la journée mondiale du malade. Quel message peut-être vous voulez adresser à tous ceux qui s'occupent des malades dans les hôpitaux, dans les centres de soins, par rapport à ces questions ?
Ça, je pense que le message que je voudrais faire passer, d'abord, c'est la reconnaissance et l'admiration, hein, pour tous ceux qui sont au service des malades et qui se dévouent en particulier dans des services difficiles de cancérologie ou dans des maisons de soins palliatifs ou dans des services de soins palliatifs, avec une grande attention à la personne. Et le message que je voulais faire passer, c'est il faut vraiment constituer des groupes de travail, de partage sur ces questions. On ne peut pas aborder la souffrance de manière isolée, car c'est souvent difficile à porter pour une personne seule, et d'inviter aussi à la réflexion éthique et anthropologique. Et je crois en effet, je le vois bien dans mes visites pastorales, que dans beaucoup d'établissements non confessionnels, on met en place des communautés d'éthique qui sont urgents et considérés comme tels par les personnels infirmiers.
Monseigneur Ayé, merci. Monseigneur Ayé, nous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie diocésaine.
Monseigneur Ayé, pour clore cette émission, nous allons évoquer avec vous des réalités plus concrètes de la vie diocésaine. Alors déjà un mot sur votre séjour récent à Rome, où vous avez retrouvé 19 jeunes de notre diocèse au cours des rencontres œcuméniques de Thésée.
Voilà, donc ce sont les rencontres européennes même de Thésée qui sont œcuméniques, puisque Thésée, comme vous le savez, est un mouvement œcuménique qui rassemblait donc des jeunes de toute l'Europe, 40 000 jeunes, dont 2 000 Français, 12 000 Polonais. Vous voyez que la majeure partie des jeunes présents venaient d'ailleurs de l'Europe de l'Est, hein, des pays de l'ancienne Union soviétique, et des jeunes donc de toute confession chrétienne, orthodoxe, protestant et catholique. Et moi, j'étais très heureux de rejoindre ces jeunes du diocèse, car il y a une culture de ces rencontres européennes comme des pèlerinages à Thésée, pourrait-on dire, dans notre diocèse, et de vivre avec eux le passage à l'année nouvelle avec les frères de Thésée. J'étais très impressionné par l'accueil dans les paroisses, bien entendu, la fraternité entre des jeunes de pays différents et de confessions chrétiennes différentes, tout en restant chacun clair dans son identité, car Thésée n'est pas une invitation au syncrétisme, hein. Il y a une religion au-dessus des religions, mais surtout par ces grands temps de prière écuménique autour de la croix, dans les grandes basiliques romaines, faits de chants de Thésée qui nous sont familiers, répétitifs et méditatifs, d'écoute de la parole de Dieu et de temps de silence. Et puis de cette prière finale autour de la croix, où chacun est invité à déposer ses propres peines, ses propres intentions à la croix de Jésus. Et je note que les jeunes qui étaient là sont des jeunes que nous connaissons, que nous rencontrons souvent sur nos lignes. Ils sont dans nos aumôneries. Pour certains, ce sont des pratiquants convaincus. Pour d'autres, ils sont un peu plus éloignés et venaient pour la première fois. D'autres venaient déjà depuis un certain temps. C'est d'ailleurs eux qui se sont, entraînés les uns les autres, hein, car c'est une organisation des jeunes, même si c'est accompagné par l'abbé Jean-Paul Martinon et puis moi-même pour les derniers jours. Et je note que leur témoignage est assez touchant. Je vois ce jeune, de la génération Y, tout à fait au fait des grands mouvements d'aujourd'hui, d'ailleurs dans une école de commerce, et qui me disait, moi, ce qui me frappe le plus et ce qui me touche le plus dans ces grandes prières, c'est le silence. Et je pense que Thésée est pour beaucoup de jeunes, en particulier assez loin de nos communautés chrétiennes, l'expérience de l'intériorité, de la spiritualité. Pour ce qui est de la rencontre avec les autres, il y a aussi d'autres rencontres mondiales, comme les JMJ, qui leur permettent de le faire. Mais là, il y a une première initiation, je crois, à la vie intérieure. Et ça, c'est magnifique.
Plus près de nous, des visites pastorales sont encore prévues, puisque vous continuez votre tournée des paroisses. Quelles sont les prochaines visites prévues ?
Alors, ma prochaine visite, ce sera début février à Saint-Pierre-Saint-Paul-de-Pau, après avoir fait fin janvier la paroisse de Saint-Joseph-des-Falaises, Bidart-Guétari. La prochaine ensuite, ce sera Pontac, hein, près de Lourdes, la dernière paroisse de notre diocèse avant Lourdes. Voilà. Visites pastorales qui sont pour moi toujours très importantes, précisément pour entretenir et établir ce dialogue pastoral du pasteur que je suis avec des communautés chrétiennes qui sont rassemblées au nom du Seigneur et qui sont mobilisées pour la mission et que je peux encourager et aider à entrer toujours plus dans une démarche missionnaire.
J'ai une bonne nouvelle et même deux. Ça vous rappelle quelque chose, Monseigneur Ayé? C'était le slogan de la campagne du denier de l'Église de l'an dernier. On vous a vu dans des affiches 4x3 à Pau et à Bayonne au bord de nos routes. Cette campagne du denier de l'Église, est-ce qu'elle a marché ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Est-ce que cette campagne a dépassé ce que vous attendiez au niveau financier ?
Alors, cette campagne qui avait été proposée par l'agence de communication, qui a été diversement appréciée, c'est vrai que je note que pour beaucoup d'une génération active, engagée professionnellement aujourd'hui ou socialement à travers toutes sortes d'associations, mais qui sont souvent à l'extérieur de l'Église, cette démarche a été plutôt positivement accueillie, et je l'entends encore aujourd'hui dans beaucoup de mes rencontres, au-delà du bocal ecclésial. Au sein de l'Église, je sais qu'elle était diversement appréciée, à la fois ceux qui ont tout à fait admis la démarche, d'autres qui l'ont trouvée un peu tapageuse, un peu trop expressive. Ceci dit, d'un point de vue financier, ce n'était pas évidemment, comme vous le savez, le seul objectif visé. Le premier objectif visé, c'est de donner aussi une visibilité à l'Église et à sa mission et au service qu'elle offre à beaucoup de gens, hein, qui ne savent pas toujours non plus que l'Église ne vit que de la générosité des fidèles et que des dons des fidèles, mais elle était aussi un souci d'interpeller de nouveaux donateurs et en tout cas de faire prendre conscience à ceux qui, à un moment ou un autre de leur existence, profitent des services de l'Église, qui peuvent aussi aider l'Église.
Et cet objectif des nouveaux donateurs,
je ne peux pas donner les chiffres définitifs puisqu'on est encore à entrer un certain nombre de chèques qui arrivent des paroisses pour le denier de l'Église 2012. Je pense que pour ce qui est des dons dans les mois qui ont suivi la campagne d'affichage, il y a une légère embellie pendant ces mois-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ensuite, avec l'oubli de cette campagne, on est connu. Je ne sais pas encore si on a connu une augmentation finale ou une diminution ou une stagnation. Je sais qu'il y a des campagnes qui augmentent, comme celle des chantiers, comme celle des vocations. Ça, c'est manifeste, qui ne sont pas encore closes non plus. Il est possible aussi que la crise aidant, que le télescopage de nos campagnes, étant donné les dysfonctionnements actuels que nous vivons à l'école madiocésaine, ne nous fasse pas perdre un petit peu dans la recette finale. Mais je ne peux pas encore le dire de manière définitive, puisque on ne connaît vraiment les chiffres définitifs qu'en février, hein, comme chaque année. Mais ce sera évidemment communiqué de manière transparente.
Parce qu'il y a un an, je vous posais la même question ici. Ça fait 4 ans que vous êtes évêque du diocèse de Bayonne, Escarré ou Laurent, et il n'y a toujours pas eu la publication des comptes de l'association du diocèse.
Ça, c'est vrai que c'est une chose qui est tout à fait à l'ordre du jour. Je répète que là, pour cette année où nous aurions dû le faire, les turbulences que nous connaissons à l'école madiocésaine avec le départ de l'économe diocésaine, Mme Patricia Mintegui, cette chose-là n'a pas encore été... on n'a pas encore pu le faire. Mais il est bien évident...
Vous comprenez que les chrétiens aiment bien donner, mais aiment bien savoir aussi.
Mais tout à fait. Je le comprends tout à fait, parce que je l'ai toujours fait dans ma paroisse quand j'étais curé, et je le faisais aussi quand j'étais vicaire général de mon diocèse. Donc il n'est pas du tout... Il n'y a aucun obstacle à ça. Hein. Je répète qu'il n'y a aucune opposition, au contraire. Je suis bien tout à fait pour la transparence.
Donc vous recherchez un économe diocésain ?
Nous sommes en quête d'un nouvel économe diocésain, en effet. Le 11 février, je recevrai des candidats qui ont été présélectionnés par une agence que j'ai requise pour nous aider à recruter cet économe diocésain, sur le local comme sur le national, qui s'appelle Ecclesia RH.
Alors, autre réalité diocésaine, Monseigneur Ayer, il est vrai que cette année, vous avez été l'objet de diverses attaques personnelles, notamment dans la presse au Pays Basque, que ce soit à l'occasion du colloque sur la vie, de votre engagement contre le mariage pour tous. Comment vivez-vous ces attaques ? Est-ce que vous avez réussi à communiquer avec ceux qui vous attaquent et qui semblent agressés par vos engagements pour la vie ou contre le mariage pour tous ?
Écoutez, j'ai tout à fait conscience, comme je l'ai dit à plusieurs reprises aux prêtres et je crois dans le dernier éditorial de notre Église, qu'un évêque nécessairement est exposé, que sa mission est d'abord une mission prophétique, qu'il a pour mission redoutable à la suite du Christ, à la suite des évêques de tous les temps, à la suite même des prophètes d'Israël, d'annoncer une vérité de l'Évangile qui ne convient pas à tous et qui peut contrevenir aussi aux opinions dominantes. C'est vrai en particulier dans les débats de société qui agitent nos contemporains aujourd'hui. Je sais que la proclamation du message de l'Évangile, encore une fois non seulement pour ceux qui regardent le cœur de notre message, mais pour ce qui regarde les débats de société d'aujourd'hui, peut conduire à des incompréhensions, y compris dans nos rangs. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à proclamer cet Évangile à temps et à contre-temps, toujours dans le souci d'instruire, en essayant d'être jamais dans l'agressivité et dans la violence. Et j'ai conscience que je peux aussi me faire frapper par les médias ou par quelques groupes au sein de notre Église. J'invite au dialogue. Je pense que si je porte une parole, les personnes qui ont cru bon de s'opposer du sein de l'Église à ce que je dis devraient avoir, j'allais dire, l'honnêteté, me faire la charité de venir me rencontrer et d'entrer dans un dialogue interpersonnel. Jusqu'à présent, les personnes qui ont, sur la place publique et par le biais des médias, dénoncé un certain nombre de mes propos et de mes démarches pastorales, sont rares à être venus frapper à ma porte pour me rencontrer, s'expliquer et me dire leur ressenti.
Alors vous parlez d'opposition au sein même de nos rangs. C'est vrai que bon, on peut faire allusion justement au groupe baptisé 64. Ils ont dit dans la presse que vous les écoutez, que vous êtes bienveillants, mais que vous continuez à suivre votre idée. Alors est-ce que c'est ça le dialogue pour vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Mais est-ce que eux ne suivent pas leur idée ? Et sont-ils venus pour essayer de confronter leurs idées aux miennes ? Non, il n'y a pas eu de vrai dialogue. Hein. Vous voyez, un dialogue, ça veut dire quoi ? Je répète ce que disait le pape Benoît XVI dans les vœux à la Curie romaine le 21 décembre 2012. Le dialogue, ça veut dire un a priori de bienveillance vis-à-vis des personnes. Rechercher la compréhension, donc se rencontrer et parler. Et ensuite, si on est ferme sur son identité, on est ferme sur son identité. Quand on me reproche d'être ferme sur mes idées, je rappelle que ce ne sont pas mes idées, que je rappelle les éléments essentiels au sein de l'Église. Quand on dit que mes positions réactionnaires sur l'avortement et l'euthanasie ne sont pas mes positions réactionnaires, c'est l'enseignement de l'Église, depuis toujours, qui a été rappelé en grande communion avec les évêques du monde entier, et pas seulement d'aujourd'hui, mais dans le temps, par le pape Jean-Paul II ou par le pape Benoît XVI. Donc je ne vois pas comment je pourrais avoir une idée qui soit autre que celle que l'Église me demande de proclamer au nom de ma foi et au nom de ma mission prophétique d'évêque.
Est-ce que c'est sur le fond qu'il vous critique ou est-ce que ce n'est pas aussi sur la forme ?
Je pense que c'est d'abord sur le fond. Sur la forme, je n'en sais rien puisque je ne les ai jamais rencontrés.
Monseigneur Allier, pour terminer, nous allons entrer dans le temps du carême. Ce sera le temps du carême de l'année de la foi.
Oui, donc je pense que toutes les initiatives que les paroisses ou que les communautés d'entre diocèses voudront prendre, elles prendront certainement corps particulièrement dans ce temps fort du carême, qui est un temps de conversion et qui est un temps de perfection de la vie chrétienne, donc qui rassemble généralement la communauté autour de l'essentiel. Et je pense bien que c'est là que fleuriront toutes les initiatives et les démarches des communautés sur l'année de la foi.
Puis peut-être un mot quand même déjà sur Diocèse en fête.
Alors cette année, comme vous le savez, Diocèse en fête n'aura pas lieu à la Pentecôte, mais le dimanche qui suit, n'aura pas lieu sur la côte basque, mais à Pau. Donc ce sera une manière de justice par rapport au Béarnais, peut-être, et sera organisé et animé avec le concours des Amis d'Edifa. Et nous voulons essayer de donner une certaine ampleur à ce rassemblement, avec peut-être une insistance sur des temps de partage et de réflexion, peut-être d'enseignement un peu plus que dans les deux dernières éditions de Famille en fête, qui est devenue, comme vous le voyez, Diocèse en fête.
Le 26 mai, donc, à Pau. Merci beaucoup, Mgr Allier, et merci à Violaine Ricourt-Dumas donc pour cet entretien enregistré le 31 janvier 2013. Merci.
Voilà, merci beaucoup.